France Culture, les matins d'été, Nicolas Martin.
C'est l'heure de la revue de presse internationale d'Ezekiel Fernandez. Bonjour Ezekiel.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
La presse écrite est prise de vitesse ce matin par l'annonce de la libération d'Isabelle Prim, qui était retenue en otage au Yémen depuis 7 mois.
Ah oui, la première dépêche de l'agence France Presse est tombée un peu avant 1h ce matin, faisant état de l'annonce officielle de l'Elysée. Autant dire que seuls les sites en ligne des journaux, bien sûr, diffusent l'information. Isabelle Prim avait été enlevée le 24 février. Elle travaillait pour une société américaine de consulting social. Une vidéo avait été mise en ligne en juin dernier dans laquelle elle demandait à François Hollande et au président yéménite d'agir en vue de sa libération. Dans le communiqué officiel rendant public sa libération, tout à l'heure, le président français exprime toute sa gratitude à ceux qui ont œuvré à cette solution, notamment au sultan d'Oman. Isabelle Prim, qui est âgée de 30 ans, sera de retour dans les heures qui viennent en France. Ça n'en pas douter, ce sera à la une de toutes les prochaines éditions papier de vos journaux. Vous ne trouverez pas non plus de compte-rendu imprimé du premier débat télévisé des primaires républicaines. Décalage horaire oblige, des deux débats pour être précis, puisque les 7 petits candidats à l'investiture ont eu droit à ce que le Washington Post appelle la table des enfants, alors que les 10 principaux ont eu droit, eux, au prime time devant les caméras de Fox News. 2 heures d'émission que le Washington Post résume dans son titre. Le débat républicain navigue entre 2 sujets, l'Amérique et Trump. Le milliardaire a concentré en effet l'attention sur lui dès le démarrage, quand il a été le seul à ne pas exclure de se présenter en candidat indépendant s'il ne reportait pas les primaires. Donald Trump subit également les foudres de Rand Paul, sénateur du Kentucky, le premier membre du Tea Party, entre parenthèses, avoir été élu au Sénat. Rand Paul donc accuse Trump de vouloir préserver ses arrières du côté des Clinton, en d'autres termes de trahir le camp républicain parce qu'il a l'habitude, ajoute Rand Paul, d'acheter les politiques. Fin de citation. De l'autre côté de l'Atlantique, The Guardian retient parmi les temps forts du débat républicain la nouvelle sortie de Donald Trump sur le thème de l'immigration. Interrogé sur ses précédentes déclarations selon lesquelles le Mexique envoie ses violeurs et ses trafiquants de drogue aux États-Unis, le trublion Cabot prend un malin plaisir à persister et signer « Nos dirigeants sont stupides, nos politiciens sont stupides, le gouvernement mexicain est plus intelligent, plus rusé, il nous envoie les plus mauvais parce qu'il ne veut pas payer pour eux. » Face à lui, Jeb Bush adopte, selon le quotidien britannique, un ton plus pragmatique. L'ex-gouverneur de Floride confirme qu'il soutient l'idée d'une régularisation progressive des immigrants sans papier. Pas une amnistie, mais en échange d'une amende et d'autres conditions qui restent à définir, il pourrait gagner le droit de vivre aux États-Unis. Une position qui est d'ailleurs très loin de représenter le mainstream, le courant majoritaire au sein du camp républicain.
La disparition du Boeing de la Malaysia Airlines continue, Ezekiel, à susciter beaucoup de questions et déborde même sur le terrain diplomatique.
Mais le Figaro consacre encore une double page, par exemple, à cette enquête qui se poursuit, écrit-il, dans la confusion. Soit les Malaisiens parlent trop, soit les Français n'en disent pas assez. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'harmonie ne règne pas en termes de communication. Hier, le ministre malaisien des Transports affirmait que d'autres débris du Boeing, des coussins, des vitres, ont été retrouvés au large de la Réunion. Les autorités françaises, pour l'instant, n'ont pas confirmé. Voyons comment tout cela est évoqué dans la presse des pays concernés au premier chef par la catastrophe. Tout d'abord en Chine, qui déplore la disparition de 153 de ses ressortissants dans le crash du MH370. Des dizaines de familles de victimes ont manifesté hier devant la Malaysia Airlines à Pékin. Le China Daily rend compte ce matin de leur désarroi et de leur colère. Les familles veulent plus de réponses. Nous ne nous intéressons pas au crash en lui-même du Boeing. Nous voulons savoir ce qu'il est advenu de nos parents. Voilà ce que déclare une mère dont la fille est portée disparue. En fait, tout porte à croire, lorsqu'on lit cet article du China Daily, que le dernier rebondissement dans le mystère de l'avion disparu ne fait en fait que réveiller le ressentiment des familles de victimes face à l'attitude des autorités malaisiennes. Les dissonances enregistrées dans les versions de Kuala Lumpur et de Paris sèment le trouble, alimentent leur défiance. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères ne dit pas autre chose quand il déclare qu'il incombe au gouvernement de Kuala Lumpur d'apporter toute l'aide possible aux familles en deuil et de faire en sorte que leurs droits légitimes soient respectés. The Star Online, journal malaisien en ligne, insiste quant à lui sur le fait que les recherches vont reprendre au moins jusqu'à début 2016. Plusieurs navires vont être engagés dans cette opération qui vise à retrouver le corps de l'avion, le corps du Boeing. Encore faut-il se mettre d'accord sur la zone de recherche avec les Chinois et les Australiens. Lorsque l'on observe la carte publiée par le Figaro ce matin, la modélisation en fait de la trajectoire possible des débris du Boeing dans l'océan Indien, eh bien, on peut raisonnablement estimer que cette nouvelle étape maritime relève, Nicolas, du pari plutôt que d'une démarche pragmatique.